UFD, salut Natacha.
Merci Marie, bon après-midi.
La science CQFD, Natacha Triou.
Pour ce dernier épisode de notre série sur l'océan, on plonge découvrir son patrimoine archéologique avec l'un de ses plus fervents défenseurs, Michel Lourd. Avec ses 3 millions d'épaves qui reposent dans ses fonds, la mer est bien le plus grand musée du monde. L'archéologue sous-marin a expertisé pas moins de 250 sites archéologiques. Des épaves en profondeur, tout autour du globe. Et il ne s'est pas limité au monde romain. Il a aussi exploré l'époque moderne. En 40 ans de carrière, il a révolutionné la discipline. Il a contribué à inventer l'archéologie robotisée pour l'exploration des abysses. La robotique nous donne aujourd'hui accès à des informations qui autrefois étaient hors de portée. Michel Lourd, une plongée dans le passé. Et bonjour Michel Lourd.
Bonjour Natacha.
Vous êtes archéologue sous-marin, ancien directeur du DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines entre 2006 et 2021. Vous êtes conservateur général du patrimoine, membre de l'Académie de marine. Grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Nous allons parler justement tout au long de cette heure de votre parcours, de votre cheminement. Je remercie nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Chaque jour, nous postons pour vous de nombreuses ressources sur notre compte @sciencecqfd. Alors en quoi consiste l'expertise archéologique sous-marine? Comment la discipline a-t-elle évolué? Et pourquoi une archéologie robotisée est-elle indispensable? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour sur l'importance des épaves en archéologie. Nous sommes en 1952.
En parlant d'archéologie sous-marine, j'ai surtout voulu définir un tout petit coin de l'exploration sous-marine et de la conquête des profondeurs de la mer. J'ai essayé de définir à la fois l'archéologie et la vie sous-marine en fonction de l'archéologie. Oui. C'est-à-dire de préciser des techniques et des méthodes.
Oui. Je relève une phrase de votre livre. Un naufrage, dites-vous, est un inventaire, un abrégé de la civilisation à l'heure du drame.
Certes, un naufrage, c'est évidemment d'abord un drame, mais c'est aussi une tranche de vie qui, tout d'un bloc, descend dans la mer et que la mer nous garde. Sur ces épaves antiques, sur ces épaves vieilles de 2000 ans, on n'a pas seulement trouvé des amphores ou des œuvres d'art, mais on a trouvé aussi la marque des hommes, le souvenir de leur activité.
Est-ce que certaines découvertes sous-marines permettent de réviser certains jugements historiques?
Oui, sans doute, oui.
Par exemple?
Il est certain que nous nous faisions des transports maritimes antiques une idée assez incomplète, sinon fausse. La plupart des naufrages que nous connaissons maintenant, des naufrages antiques, nous montre que ce qu'on transportait par mer était beaucoup plus considérable que nous l'imaginions. Dans les épaves retrouvées, dans les restes au moins retrouvés devant Saint-Tropez, il y avait notamment un linteau qui pesait plus de 40 tonnes. Nous ne faisions pas une idée juste des transports par mer dans l'Antiquité. Ils ont été très grands et il y a eu un grand brassage de matériaux et d'hommes dans toute la Méditerranée, probablement à très hautes époques. Et là, l'archéologie sous-marine, en se développant, apportera des données considérables et nouvelles.
La voix de Philippe Diollet, plongeur, explorateur et vulgarisateur français, diffusée sur la RDF en 1952. Michel Lourd, dans quelle mesure les découvertes sous-marines permettent-elles d'affiner nos connaissances historiques pour compléter cette archive?
Alors, pour compléter cette archive, parce qu'elle est déjà essentielle en soi, enfin Diollet, pour les anciens, je dirais, du métier comme moi, j'ai pas eu l'occasion de connaître Diollet, mais beaucoup de gens qui ont plongé à la même époque que lui, Philippe Taillès, Frédéric Dumas, etc. Donc c'était, et pour l'époque, et ça s'est confirmé par la suite, hein, c'était une révélation d'un monde figé. Ne jamais perdre de vue que des vestiges sous-marins, appréhendons, on va commencer par un bateau, parce que c'est le plus simple quand on parle d'épave, c'est ce que les gens entendent tout de suite. Un bateau, c'est un instant, un chaos, celui du naufrage, puis l'instant se fige sur le fond de la mer, et l'épave ne subit quasiment plus de perturbations pendant très longtemps, sinon celles qui sont liées au phénomène de la courantologie, à la corrosion marine, etc. Donc en fait, on a l'habitude de dire qu'une épave, c'est un peu un Pompéi sous-marin, c'est-à-dire un instant brutalement figé, qui a conservé jusqu'à nous des strates historiques qui sont demeurés relativement inviolés jusqu'au début de la plongée sportive dans les années 40-50, où là, malheureusement, beaucoup d'épaves ont été visitées et exploitée pour en faire des souvenirs de bord de cheminée ou de manière tout à fait commerciale, ce qui est regrettable. Mais c'était un monde complètement nouveau. Dans les villes, si vous voulez, on construit des immeubles. Les immeubles sont effondrés, s'effondrent par eux-mêmes. Ou on les plie, on les écrase, on les pile, puis on reconstruit par-dessus. Donc on a différentes couches, mais parfois sur 2-3 mètres d'épaisseur, vous avez plusieurs générations de bâtiments, de constructions diverses. Une épave, c'est un ensemble homogène qui est resté relativement inviolé, je le disais, qui est resté intact et où quasiment tous les éléments sont parlants. Donc c'est évident. Ce que les archéologues terrestres, ce que j'ai été au début de ma carrière, hein, ce que les archéologues terrestres trouvent à l'état hyper fragmentaire, bien souvent les archéologues sous-marins le trouvent en parfait état et dans un synchronisme absolu. Si vous êtes sur un ensemble homogène, c'est-à-dire si vous n'êtes pas en train d'étudier deux épaves simultanément parce qu'elles auraient coulé un siècle d'intervalle l'une sur l'autre, ce qui est arrivé au début de l'archéologie sous-marine française dans les années 50 sur le site du Grand Congloué, où les équipes de Cousteau et de Fernand Benoît, l'archéologue, ont étudié deux épaves qui s'étaient superposées un siècle d'intervalle sans jamais prendre conscience qu'il y en avait deux, ce qui a évidemment créé un hiatus incroyable, une chronologie bizarre et très dispersée. Mais sinon, si vous étudiez un site homogène, vous pouvez être sûr que tous les objets qui se trouvent sans les objets, ça peut être les objets de la vie à bord, les objets d'équipage, l'accastillage du bateau, ce qui relève de la cargaison, tout ça est en synchronisme parfait. Donc ça vous offre en fait un instantané, c'est une espèce de polaroïde, une image brutalement figée qui vous restitue toute une page du passé. Et ça, c'est un des apports incontestables de l'archéologie sous-marine, mais il en est évidemment bien d'autres.
Alors ces polaroïdes du passé que vous explorez, là on évoque les épaves, mais les archéologues sous-marins s'intéressent donc à des vestiges sous-marins, mais quelles peuvent être leurs formes, de quel type peuvent être ces vestiges ?
Alors la diversité est une diversité quasi humaine. On trouve sous l'eau à peu près tout ce qui a navigué effectivement par voie de mer. Vous pouvez aussi trouver sous l'eau des vestiges de cités qui se trouvaient sur le littoral et qui ont été par bradycéisme, par phénomène de mouvement tectonique, qui se sont retrouvés bientôt sous la mer. On a l'exemple dans le golfe de Fos, à quelques 40 km de Marseille, de nécropoles du bas empire, puis des nécropoles plus récentes. Vous avez, ça peut être des vestiges d'aéronautique, des avions torpillés par la flaque ou la loutre à feu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas intéressé grand monde pendant longtemps, mais qui aujourd'hui apparaissent comme des pages de l'histoire de l'humanité. Donc ça peut être un avion. En fait, il y a à peu près la diversité la plus extraordinaire. Comme je le dis, ça peut être un navire coulé. Ça peut être parfois un navire venu à la côte qui s'est retrouvé ensouillé, qui se trouve sur une zone d'estran à la marée basse. Vous y allez à pied, à marée haute, vous y allez avec des bouteilles. Ça peut être une grotte ennoyée comme la grotte Cosquer, qui pour sa partie émergée aujourd'hui est encore un monument extraordinaire que l'on date d'occupation entre 33 000 et 19 000 BP avant notre ère, et dont l'accès est fermé depuis au moins 10 000 ans. Alors, voilà, donc il y a cet aspect extraordinaire, cette sédimentation ou cette cimentation qu'offre la mer, qui bloque tout d'un coup des vestiges et qui les conserve jusqu'au moment où on les découvre. Alors l'importance, évidemment, quand on les découvre, c'est que ces vestiges soient étudiés de manière la plus scrupuleuse, la plus méthodique, la plus rigoureuse, de façon à en extraire le plus d'indices possible pour concourir à situer un environnement historique.
On va parler en effet des méthodes de l'archéologie sous-marine, mais peut-être un mot sur l'état de conservation de ces vestiges, parce qu'on parle quand même d'un environnement plutôt agressif, je pense au fait que le sel marin accélère la corrosion des métaux, par exemple. Donc on a des épaves quand même qui reposent dans des milieux plutôt fragiles.
Alors, singulièrement, il faudrait presque confronter, si vous avez une épave romaine qui a été recouverte au bout de 50, 100 ans, 200 ans par le sédiment marin, finalement c'est du bois, le bois s'est gorgé d'eau, tout ça atteint une relative stabilité qui n'est perturbée au fond que lorsqu'on extrait ces vestiges ou qu'ils se retrouvent dégagés par des mouvements de fond, par de la houle, par des tempêtes aujourd'hui, ça peut être ça. Donc paradoxalement, ces épaves romaines sont mieux protégées aujourd'hui que ne le sont les épaves du 19e. Dès que vous vous avez des constructions acier. Là, malheureusement, pour les navires en acier, la corrosion marine par faible fond, je dirais jusqu'à 100, 200, 300, 400 mètres de fond, la corrosion marine fait son effet comme elle le fait sur n'importe quel objet. Quand les gens vous disent, oh là là, c'est tout rouillé, bah, c'est exactement ce que vous obtenez avec une épave du 19e ou du 20e siècle. Et puis, quand c'est par très grande profondeur, on évoquera le Titanic, mais on pourra en évoquer bien d'autres, des épaves que moi j'ai étudiées par plus de 1000 mètres de fond. Et là, en revanche, c'est plus seulement la corrosion, ce sont des bactéries qui mangent le métal. On les a mises en évidence, ces bactéries, sur des échantillons qui avaient été prélevés sur le Titanic, d'où le nom d'au moins d'une de ces bactéries, la Lomonas titanicae. Et alors celle-là, elle grignote tout doucement le métal, de manière insidieuse mais définitive, hein, puisqu'on estime que certaines épaves auront disparu. Le Titanic, mes amis britanniques sont persuadés qu'il aura cessé d'exister dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Alors je ne sais pas si c'est le cas, ce qui est sûr c'est que tout s'écroulera un jour, parce qu'au fond ces structures, qui, lorsque vous arrivez devant la structure, elle a l'air immense, je me souviens d'un cuirassé français par 1025 mètres de fond au sud de la Sardaigne, le Danton a l'air magnifiquement extraordinaire, c'est un bateau de 146 mètres de long, 25 mètres de large, 27 mètres de haut, c'est quelque chose quand on est sous l'eau avec les canons qui sont toujours tournés vers le large, tout ça a l'air extraordinaire, mais je gage que dans moins d'un siècle, tout va s'écrouler, tout simplement parce qu'à un moment, il va y avoir une rupture sur un des pieds, un des montants, quelque chose qui tient encore la structure, c'est un ensemble qui se tient, mais si un pied lâche, c'est au fond, c'est toute la structure qui va s'effondrer. Et donc, paradoxalement, ces épaves contemporaines sont peut-être plus menacées que les épaves romaines qui se trouvent aujourd'hui ensouillées dans le sédiment par 50, 100 ou 200 mètres de fond.
Le Danton, en effet, qui a été torpillé en 1917, et lorsqu'on qu'on s'approche de cette épave à plus de 1000 mètres de fond, on observe ce que vous appelez les larmes du Danton, un défilé de rouille dû à cette lente décomposition. À l'inverse, on a en effet un bel exemple d'épave qui est parfaitement conservée. C'est la Lune, le bateau de la première marine sous Louis XIV, Michel Lourd.
Oui, alors évidemment, là, vous touchez un point sensible pour moi, puisque c'est une épave qui me fait encore toujours rêver, puisque j'ai repris, en fait, la Lune a été découverte en 1993 par le Nautile d'Ifremer, qui était d'ailleurs piloté par Paul-Henri Narjolet, hein, qui était un ami qui a disparu dans le crash du sous-marin Titan sur le Titanic en 2023. Donc l'épave, elle forme un petit monticule sur le fond de la mer. C'est un navire qui fait une quarantaine de mètres de long, une 10 à 11 mètres de large sur le fond, hein. Et probablement une couche archéologique de plusieurs mètres, je dirais 3, peut-être 3, 4 mètres. Donc le navire est là, comme ça, comme un gigantesque millefeuille, parfaitement conservé, où il y a probablement des dizaines de milliers d'objets, parce que le navire a coulé très brutalement en 1664. Le 6 novembre 1664, un jour de tempête, et je dirais presque sur ordre du roi, parce que le navire était revenu d'une expédition sur les côtes barbaresques. Il était en très mauvais état, il faisait beaucoup d'eau, le capitaine ne souhaitait pas repartir, sauf qu'il venait annoncer une défaite et il fallait du temps pour annoncer au Louvre que le grand corps d'armée français était défait, alors que la Gazette de France chantait les louanges de l'armée de Louis XIV à l'époque. Donc on les a contraints à repartir et le bateau probablement s'est ouvert, une pièce massive a dû lâcher et il a plongé immédiatement. Et donc on l'a retrouvé, c'est assez étonnant, sur le fond de la mer, on voit parfaitement la forme du bateau, on voit encore les canons de la batterie supérieure, les canons sont encore en place, regardent encore vers le large, et là, partout où vous vous approchez, il y a du mobilier intact, et il faut imaginer qu'il y a des dizaines de milliers d'objets qui touchent à la fois à l'art militaire, mais ce bateau transportait un corps expéditionnaire, il y avait peut-être entre 700 et 1000 hommes à bord. 1000 humains d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que des hommes, il y avait évidemment forcément des lavandières, des serviteurs, et tous ces gens sont morts dans le naufrage, sont partis par le fond avec leurs objets personnels. Donc là, c'est une page, c'est une fenêtre ouverte sur l'histoire de la première marine de Louis XIV, certes, mais aussi sur toute la société Louis XIVe, je dirais, c'est-à-dire une hiérarchie des militaires, des mousquetaires, et pas seulement des marins, comme nous avons l'habitude d'en trouver généralement sur nos épaves. Ainsi, absolument majeur et magnifique.
Là, en effet, la vaisselle est toujours rangée dans les cuisines intactes. Au départ, votre équipe, Michel Lourd, l'a d'abord identifiée dans les archives. C'est-à-dire qu'être archéologue sous-marin, c'est également et surtout peut-être se familiariser avec les archives.
Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans ma carrière, parce que j'ai commencé, moi, j'étais dans l'étruscologie, puis évidemment, quand je suis rentré au Drasme en 1982, on étudiait essentiellement des épaves antiques en Méditerranée, donc j'ai fait du romain, comme on dit, des épaves du 2e et du 1er siècle avant Jésus-Christ, j'en ai plongé beaucoup, et puis mon patron de l'époque m'avait dit, tiens Michel, vous qui venez de ces littoraux barbares, ce qui voulait dire la Bretagne, ça serait bien que vous en occupiez, et là, j'ai commencé à plonger sur des épaves plus récentes, et j'en ai découvert la magie, le charme, j'ai aussi découvert qu'elles posaient autant de questions historiques que les épaves romaines, mais qu'elles avaient une source d'information potentielle, ce sont les archives. Et donc, après la plongée sur les épaves, j'ai plongé dans les archives, et là, j'avoue que je me suis régalé, je n'en suis plus jamais reparti. Parce que dans les archives, c'est la vie de tous les jours, on y trouve le mensonge, on y trouve la veulerie, on y trouve la vérité, il faut savoir reconnaître ce qu'est la vérité de la veulerie et du mensonge, donc c'est fascinant, c'est passionnant. On rencontre des gens dont on finit par devenir l'ami à travers 3 ou 4 siècles de distance, on finit par les plaindre, on finit par les supporter, on espère qu'ils vont convaincre, et pourtant on sait qu'ils sont morts, sans jamais avoir été entendus. L'archive, c'est quelque chose d'extraordinairement vivant, et quand vous la confrontez au site archéologique, alors là, c'est la plénitude de la recherche.
Alors comment on se confronte justement à un site archéologique? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
On poursuit notre semaine spéciale océan et on part à l'abordage des épaves sous-marines avec Michel Lourd, archéologue plongeur. On vient d'évoquer cette épave exceptionnellement bien conservée, la Lune, bateau de la première marine sous Louis XIV. Une épave que vous avez d'abord découvert, Michel Lourd, avec votre équipe, grâce aux archives. C'est un grand vaisseau hein, qui transportait donc près de 1000 hommes et femmes. Et puis, c'est une épave qui se trouve à 91 mètres de fond. Comment ça se passe, une fouille d'épave à ces profondeurs, Michel Lourd? Vous y êtes allé 2-3 fois, il me semble.
Alors oui, j'ai fait, j'en suis à ma 8e campagne, mais on reste quasiment au niveau des campagnes d'expertise pour ne pas avoir pour l'instant les moyens financiers, en tout cas, d'en entreprendre la fouille. Parce que, comme je le disais, le potentiel de l'anus, c'est un potentiel extraordinaire. C'est probablement plus qu'un musée sous-marin du XVIIe siècle qui se trouve sur le fond, avec des dizaines de milliers d'objets qui réclameront pour beaucoup d'entre eux des traitements de restauration et de conservation nécessairement longs et coûteux, parce que tout ce qui se trouve un jour immergé, c'est un peu comme des grands blessés sur un champ de bataille. C'est-à-dire il va falloir déterminer au moment de l'expertise ou de la fouille quel objet pourra être sauvé ou ne pourra pas l'être, mais il faudra en conserver quand même toutes les données scientifiques, même s'il ne peut pas être sauvé, et s'il peut être sauvé, à quel coût cela sera-t-il fait? Et tout ça, évidemment, ça rentre en ligne de compte. Ça veut dire que lorsque vous envisagez une fouille comme celle de l'épave de la Lune, il faut vous garantir que vous aurez les moyens d'assurer la restauration, la conservation, etc. Je dirais que c'est ce qu'ont fait les Anglais avec la Mary Rose, c'est ce que les Suédois ont fait avec le navire Le Vasa perdu en 1628 devant Stockholm, et ce que malheureusement la France pour l'instant n'arrive pas à faire, semble-t-il. Mais c'est une... La Lune pourrait devenir un navire, un grand projet national. Je l'ai écrit à moult reprises, ça pourrait être un très grand projet national. On pourrait créer un musée absolument extraordinaire avec la fouille de ce bateau, qui en plus de ça, pour son étude, réclame sans doute que l'on conjuge l'histoire et la science-fiction, parce que l'étude de la Lune réclame de la robotique, et de la robotique extrêmement adaptée à la pratique archéologique sous-marine, et c'est là-dessus que je travaille depuis maintenant, je dirais, 12-13 ans.
Et on parlera plutôt en deuxième partie justement de la place et de l'importance de la robotique dans cette discipline, mais d'abord, Michel Lourd, vous avez expertisé de très nombreux sites archéologiques, entre 250 et 280, il me semble, mais qu'est-ce qui est déterminant dans une expertise d'un site archéologique ?
Alors la première chose, je l'ai écrit souvent d'ailleurs et je vais le redire, c'est que l'expertise devrait d'abord être réservée à des professionnels extrêmement aguerris, parce que l'expertise souvent c'est un instant très rapide. Bon, alors quand je dis très rapide, ça peut se faire en 2 heures, mais ça peut aussi prendre 2 ou 3 semaines. Ça demande en fait, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on plonge sur une épave pour la première fois? Ben c'est l'étendue des vestiges, est-ce qu'ils sont homogènes ou pas? Ne pas confondre des vestiges d'une cargaison et puis au fond ce qui n'est peut-être que des jets à la mer ou des objets jetés à la mer à un moment ou un autre dans une zone de mouillage. Donc définir l'extension du site, quel problème il pose, quelle est sa chronologie, quel est son potentiel historique et scientifique, qu'est-ce que ça mériterait que l'on fasse, est-ce que le site est menacé, est-ce qu'il s'inscrit dans une stratégie, dans une problématique scientifique spécifique réclamant une stratégie de fouille adaptée. Ça, c'est toutes les questions qu'on va poser au site et qu'on va se poser à soi-même. Et le rapport, et c'est pour ça que c'est important que le rapport soit dressé par quelqu'un qui est très sûr de son métier, comme au fond un diagnostic d'un très bon médecin, c'est de dire, ce site finalement n'apporte pas grand-chose, on va le délaisser, mais attention danger, si on s'est trompé dans l'analyse, on est peut-être en train de condamner définitivement à l'oubli un site qui aurait mérité qu'on l'étudie de manière méthodique. Ou alors, c'est de dire, ce site est extraordinaire, il y a un potentiel, etc., ça va mobiliser une équipe, des budgets, et puis s'il apparaît que l'expertise a été mal faite, on va découvrir qu'on a fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent à tout le monde. Donc c'est l'expertise est un moment crucial dans la vie d'une épave et dans la vie d'un archéologue qui en réalise une. C'est un geste scientifique, je le compare souvent à de la médecine. Alors on ne tue pas un humain quand on se trompe sur une épave, mais d'une certaine manière on tue une humanité puisqu'on perd une partie de son histoire.
Le métier d'archéologue sous-marin, c'est quand même un métier assez récent, puisque jusque dans les années 60, et vous me corrigez si je dis des bêtises, il me semble qu'il y avait les archéologues d'un côté et les plongeurs de l'autre, et puis c'est qu'à partir justement des années 60 où les archéologues sont devenus des archéologues plongeurs.
Alors oui, il faudrait remonter pratiquement à l'origine, c'est-à-dire au fond, on découvre l'intérêt, parce que les épaves, on les a pas découvertes au siècle dernier. En fait, on s'est intéressé aux épaves dès l'Antiquité romaine. Hein. Dans l'Antiquité romaine, il existait des corporations de plongeurs qui avaient pour charge de récupérer les cargaisons commerciales. Donc les armateurs les payaient pour tenter de récupérer une partie de la cargaison et de sauver une partie de leurs biens. Donc on connaît bien l'histoire de l'épave, c'est d'ailleurs une histoire qui est extraordinaire, où les humains ont multiplié les actes intelligents et de courage. Donc c'est vraiment quelque chose, j'ai adoré écrire, j'ai écrit des articles là-dessus et je trouve que c'est passionnant à étudier. Mais c'est surtout au tournant du XXe siècle, avec d'abord une épave anticitaire en Grèce, puis pour nous l'épave de Madia en Tunisie, qui est étudiée par Alfred Merlin, qui était un archéologue français, qui était un archéologue terrestre évidemment à l'époque, qui était le directeur des antiquités de Tunisie. Donc l'épave est découverte par des scaphandriers pieds lourds grecs. On en entreprend sommairement l'étude avec les moyens dont on disposait à l'époque. C'était fort bien fait, mais évidemment, aujourd'hui, ça ne suffirait plus à nos exigences méthodologiques. Et puis, on se rend compte de l'importance, finalement, de ces sites. On s'en rend compte tellement qu'un savant français, Salomon Reinhardt, écrira que le plus grand musée du monde gît sous le fond de la Méditerranée orientale. Aujourd'hui, nous, on traduit ça par la mer et le plus grand musée du monde. Et il faudra attendre, au fond, que l'on dispose de... Parce que les pieds lourds, c'est... Moi, j'ai plongé en pieds lourds pour savoir. Honnêtement, c'est pas simple de travailler avec un casque, des chaussures de 25 kilos au pied, etc. Il faudra attendre la mise au point du scaphandre autonome, ce qui est fait par Jacques-Yves Cousteau et l'ingénieur Émile Gagnant dans les années 40 et 50. Et puis l'ouverture d'un premier chantier sur le site du Grand Congoué en rade de Marseille, qui démontrera l'importance, au fond... Un, du potentiel, deux, de la nécessité que ce potentiel soit étudié de manière méthodique, parce qu'on va passer à côté, je le disais tout à l'heure, on va pas se rendre compte qu'on est en train d'étudier deux épaves perdues un siècle d'intervalle et qui se sont presque magiquement superposées sur le fond. Et donc on va étudier deux épaves en même temps en croyant qu'il n'y en a qu'une. Et ça va jeter un discrédit sur l'activité de fouilles menée sur le Grand Congloué, et je dirais que c'est à la fois un énorme succès, puisque c'est la première fois qu'on étudie une épave de manière un peu méthodique, et en même temps un grand échec, puisque en fait on ne s'en rend pas compte, et quand on publie l'épave en 1961, on publie l'épave du Grand Congloué, alors qu'elles étaient deux. Mais finalement ça nous sert, parce que tous les gens qui vont critiquer le travail qui a été réalisé amènent André Malraux, en 1966, à créer, je crois, le premier service au monde, le DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, qui est toujours aujourd'hui est encore basé à Marseille, qui est créé en 66, qui est le premier grand service officiel créé au monde et qui est devenu, je pense, une référence planétaire au cours de ces 60, quasi 60 années maintenant d'existence, en développant les méthodes, en développant les problématiques de recherche. Voilà, c'est un des domaines de la science où les Français peuvent dire cocorico. Les Français ne le savent pas toujours. En revanche, pour avoir présidé le conseil scientifique de l'UNESCO, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je peux vous dire que dans le monde entier, partout où j'ai été travailler, les gens disaient la France, bravo. Voilà. Donc je pense que c'est un domaine où on a encore beaucoup à apprendre aux autres, même s'il faut reconnaître, et c'est tant mieux, on est quand même rattrapé par de nombreux pays qui disposent peut-être de moyens financiers plus importants que les nôtres.
Le DRASM, en effet, qui a été fondé par André Malraux, c'est ce département, vous le rejoignez en mars 1982. Quand vous commencez, vous nous avez dit, vous êtes affecté au dossier de l'Atlantique chez les barbares. À l'époque, on porte peu d'intérêt au littoral atlantique, mais pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'épaves en Atlantique plutôt qu'en Méditerranée ?
Alors d'abord parce que le drasme, parce que la plongée était née à Sanary-sur-Mer, pratiquement la plongée autonome avec Cousteau, parce que l'épave du Grand Congloué était en rade de Marseille, et lorsque Malraux crée le service, on s'intéresse aux épaves antiques, et donc on pense que la Méditerranée, et c'est à raison d'ailleurs, elle est plus riche en épaves antiques, on s'installe à Marseille, et au fond on y trouve tellement de raisons d'y travailler qu'on délaisse tout le reste. On oublie notamment, et on oubliera d'ailleurs longtemps, que 95% des espaces maritimes français sont situés en Outre-mer, très loin de nos côtes. Ne jamais perdre de vue que la France est peut-être le seul pays du monde où le soleil ne se couche jamais, puisque la France maritime est omniprésente sur tous les océans et toutes les mers du globe. Et donc, c'est effectivement, lorsque moi je surgis dans d'abord je fais mes premières opérations, je les mène en Méditerranée, évidemment, comme tout le monde, hein, sur des épaves antiques, et puis je suis recruté, par chance, et puis mon patron de l'époque, Bernard Liou, aujourd'hui disparu, me dit, ben voilà, occupez-vous de ces littoraux barbares, parce qu'on pense que le potentiel, je ne sais pas pourquoi, mais on le croit que ce potentiel est limité, il y a tellement à faire en Méditerranée, on dénombre déjà 600 ou 700 épaves d'époque romaine, au sens large. Donc voilà, moi c'est ma chance au fond, puisque un, je découvre les épaves plus récentes, ce qui ne m'empêchera pas de fouiller à Ploumanac dans les années 80 une épave antique qui au fond réconcilie et conjugue l'antique et l'atlantique. Et puis je découvre ces épaves modernes qui ont beaucoup à dire d'elles-mêmes, qui sont de fabuleux témoins, qui ont beaucoup de choses à raconter. J'y côtoie parce que, au fond, les Français sont essentiellement intéressés par l'Antiquité, et moi, je me retrouve confronté à des épaves modernes que je ne sais pas encore étudier. Je débute, hein, je suis jeune, j'ai toujours travaillé dans le romain, si j'ose dire, ou dans l'étrusque. Et donc, je me dis, il faut que j'aille voir ceux qui ont déjà fouillé ça. Donc, c'est ceux qui ont déjà fouillé ça, c'est des Australiens, des Anglo-Saxons, etc. Et c'est là que je commence à hanter la planète, à découvrir des tas de gens qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé, à découvrir la richesse de ces patrimoines, qui deviendra finalement une des grandes armes aussi de l'archéologie sous-marine française, qui va s'imposer aussi dans le monde des épaves modernes et contemporaines, ce que nous n'étions pas disposés à faire, je pense, au début des années 80, mais que nous sommes devenus les spécialistes aussi de ces épaves récentes, et on a commencé à développer des méthodes spécifiques d'analyse de ces gisements, dont, parce qu'ils étaient récents, parce qu'ils avaient un bateau qui a coulé en 1925, on serait tenté de dire « Oh, mais qu'est-ce que tu vas perdre ton temps là-dessus ? On sait tout !» Parce qu'on croit, toujours tout savoir, parce que c'est plus près de nous, parce que dans les archives, il y a beaucoup de choses. Mais les archives n'ont pas vocation à vous raconter ce que faisaient les gens à bord, ce qu'ils transportaient avec eux, ce qu'ils pensaient, leur joie, leur peine, leur plaisir. Tout ça n'est pas raconté, mais est racontable lorsqu'on en fait l'étude, parce qu'on trouve des objets qui en témoignent. C'est le fameux chacun de nous a plein d'amis, on se connaît tous, mais qu'est-ce que l'on sait de ce qu'il y a dans le sac à main de votre voisine, de votre copine, de votre ami que vous connaissez depuis tant d'années, de votre copain avec qui vous avez déjeuné ou dîné 327 fois. En fait, vous ne le connaissez pas de l'intérieur, vous ne savez pas exactement ce qu'il pense, vous ne savez pas les objets auxquels il tient très profondément et très intimement et dont il ne parle jamais. Alors que lorsqu'on arrive, nous, des années, des dizaines d'années, des centaines d'années après le naufrage, on va découvrir son sac à main, on va découvrir qu'il est extrêmement attaché à cette petite figurine, à cette icône de voyage que sa mère, sa sœur peut-être lui a donnée avant de quitter la Russie pour venir se perdre en Méditerranée. Voilà, c'est tout ça que se raconte une fouille sous-marine.
Alors comment une fouille sous-marine se passe-t-elle aujourd'hui grâce à la robotique ? Et les archéologues sous-marins de demain seront-ils des humanoïdes ? Restez avec nous. Mode Selector sur France Culture, car nous plongeons avec un plongeur archéologue, Michel Lourd, notre invité tout au long de cette heure, archéologue sous-marin, ancien directeur du DRASM, département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, entre 2006 et 2021. Michel Lourd, c'était quoi votre dernière plongée, votre dernière épave ?
La dernière, je pense que c'est la dernière opération, c'est là il y a 2 mois, c'était sur l'épave de la Lune, perdue en 1664 devant Toulon.
D'accord, celle dont on a parlé en toute première partie d'émission. Et comment devient-on archéologue sous-marin ? Parce que vous nous avez dit en première partie d'émission également que vous étiez archéologue terrestre au début de votre carrière, que vous faisiez de l'étruscologie. Quel a été le déclic ?
Alors, le déclic, c'est en fait commence dans l'enfance, hein, sinon dans l'adolescence. J'avais 3 passions, l'aéronautique, la mer et l'histoire, et j'ai tenté de conjuguer le tout, ce qui sans jamais y parvenir. Alors la mer et l'aéronautique, j'avais pensé à l'aéronaval, et puis un jour j'ai découvert qu'on pouvait conjuguer l'histoire et la mer, et ça s'appelait l'archéologie sous-marine. Et comme j'étais probablement plus fin lettré, j'étais mathématicien, je me suis dirigé vers cette branche, qui fait que j'ai fait de l'archéologie sous-marine toute ma vie en rêvant d'aéronautique, et que j'aurais peut-être été pilote dans l'aéronaval en rêvant d'archéologie.
Et finalement, c'est assez tôt que vous découvrez le DRASM, hein, puisque c'est, le DRASM est assez fraîchement créé, et vous êtes tout de suite attiré ?
Alors, oui, enfin, du moins j'ai appris que le DRASM existait, puis que le DRASM permettait de réaliser des stages. Donc j'ai écrit à la direction de l'époque, hein, et je leur ai dit, voilà, je suis intéressé, je voudrais faire un stage. Et ils m'ont répondu favorablement, c'était presque inespéré. Je me rendais pas compte qu'on était si peu nombreux à l'époque à souhaiter faire ce métier. Et donc j'ai été associé à un premier chantier sur une épave romaine qui se trouvait dans le golfe de Fos. Et là, honnêtement, à la première plongée, à la première vision de l'épave, là j'ai su que j'étais chez moi. J'y suis resté.
Vous vous souvenez très précisément de ce moment ?
Ah oui, je m'en souviens très très bien. Oui, il faut savoir quand même que moi j'étais très marin dans l'âme, mais pas du tout plongeur. Hein. J'ai appris la plongée uniquement parce que j'ai voulu m'intéresser aux épaves. Ça a été mon moteur. Hein. C'est la plongée pour moi, c'était épave. Voilà, je voyais, j'avais pas d'autre objectif. Sinon, j'aurais préféré la planche à voile ou le voilier. Et donc j'arrive sur ce chantier en 1979. Et dès la première plongée, je trouvais tout fascinant. Voilà, je trouvais tout. Là, d'abord, évidemment, la plongée, sa capacité de se déplacer dans les 3 dimensions, et puis cette épave qui racontait déjà une histoire très ancienne avec du mobilier, des inscriptions peintes sur les amphores qui disaient voilà, je m'appelle un tel, je contiens du très bon jus de poisson, et voilà, je vais être livré à Rome. C'était la boîte de conserve d'aujourd'hui, mais version 2000 ans. Et voilà, je me suis dit, c'est chez moi, je veux être là, je veux rester là. Et à partir de là, je me suis accroché. Comment on devient archéologue sous-marin ? Avec opiniâtreté.
À l'époque, quand vous avez débuté, l'archéologie sous-marine débutait, donc tout était à apprendre. Et depuis, les méthodes ont aussi énormément évolué.
Oui, bah comme tout le reste, hein, comparer les premiers téléphones portables et ceux dont on dispose aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire et l'encombrement, bah on est à peu près partout pareil dans le reste de l'histoire et de l'humanité et de la science. Donc les technologies ont extraordinairement on en a improvisé de fabuleuses. Les premières, c'est l'image pour moi, la capacité à aller en profondeur. L'image, ça c'est un progrès qui a été phénoménal pour nous, qui nous a permis d'étudier beaucoup mieux les épaves. Et on en a exploité enfin toutes ces ressources jusqu'à la robotique aujourd'hui. Oui, la technologie ne cesse, au fond, elle se développe partout dans le monde, elle se développe dans nos secteurs d'activité aussi, donc dans la recherche en sciences humaines.
Oui, l'image, parce qu'en fait finalement c'est de l'image, la première chose qui nous vient d'un objet avant même de réussir à le saisir, c'est l'image, la première approche archéologique.
Oui, c'est de capturer. Ce que vous êtes en train de voir, c'est fugitif, parce que quand vous êtes en plongée, surtout si vous travaillez en profondeur, votre temps de plongée est très limité. Vous pouvez pas plonger 20 fois dans la journée. Hein. Au mieux, vous allez plonger 2 fois. Vous allez avoir très peu de temps au fond. Si vous travaillez à 60 mètres de fond avec de l'air, vous allez passer 10 minutes par plongée, c'est-à-dire 20 minutes dans la journée. C'est rien, en réalité, pour se rendre compte quand vous fouillez un site qui fait 30 mètres de long, 10 mètres de large. Donc l'image, c'est le moyen de capter et de ramener à la surface, le moyen de continuer à étudier. Et ça, les images ont évidemment progressé de manière folle. On a vu arriver le numérique à la fin des années 90, on a commencé à avoir des boîtiers, etc. Et puis, on faisait de la photogrammétrie qui prenait un temps fou, c'est-à-dire on faisait de la restitution 3D, il fallait très longtemps pour faire les photos, c'était très compliqué, il fallait des heures, pour ne pas dire des mois, pour restituer l'image. Aujourd'hui, tout ça se fait diablement plus vite, c'est même pas comparable. Aujourd'hui, les archéologues d'aujourd'hui ne peuvent même pas se rendre compte à quel point on a su essouffler pour obtenir ce qu'ils obtiennent pratiquement dans la demi-journée. Voilà. Et tout ça, ça nous a permis d'aller plus vite, d'être meilleurs, de mieux comprendre, d'être plus exigeants aussi dans ce que l'on faisait.
Alors jusqu'à combien de mètres de fond un archéologue plongeur peut-il travailler ?
Raisonnablement, au fond, c'est pas de savoir à quelle profondeur vous pouvez aller, c'est de savoir combien de temps vous allez disposer pour faire un travail sérieux. C'est ça la vraie limite. Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire un travail sérieux parce que vous n'avez pas le temps de le faire, il faut trouver d'autres solutions. Et donc là, au fond, la notion de profondeur intervient très vite parce que vous allez disposer de très peu de temps. Si vous êtes à plus de 50 mètres de fond, le temps est vraiment drastiquement compté. Moi, j'ai travaillé sur une épave dans les eaux philippines à 54 mètres de fond, j'avais tout écrit sur mes tablettes et je prenais jusqu'à 80 mesures en 30 minutes. Mais pour passer 30 minutes sur le fond, je mettais 1h50 quasiment de palier de décompression pour revenir au bateau. Donc il vient un moment, vous avez ce premier constat, ça me demande énormément d'énergie. Au fond, c'est quand même un métier à risque. Je ne dis pas un métier dangereux, mais c'est un métier à risque parce que vous avez toujours le risque de l'accident de décompression. Et je suis mécontent parce que je n'arrive pas vraiment à extraire du site toutes les informations qui s'y trouvent et que je voudrais exploiter. Et donc, on se met à inventer autre chose. Et il ne faut pas oublier qu'une équipe de fouilles, c'est pas une affaire d'aventurier, de casse-cou, de type tout seul. Un archéologue sous-marin, c'est quelqu'un qui fait partie d'une équipe, voire qui dirige une équipe. Et il faut que la personnalité la plus faible dans le domaine de la plongée, la plus fragile psychologiquement, au fond, s'il y a un problème, c'est le niveau que tout le monde doit avoir au minimum, mais pas plus. Vous pouvez pas imposer des trucs de casse-cou à des gens qui n'en sont pas capables de le faire. Et quand vous mettez tout ça bord à bord, vous vous rendez compte que pour avoir une équipe, parce qu'il vous faut un anthropologue, un photographe, quelqu'un qui fait de la céramique, quelqu'un qui va faire des relevés d'architecture navale, etc., quand vous voulez que toute cette équipe travaille de manière sereine, il vient un moment où la profondeur est l'ennemi et il faut aller chercher d'autres solutions.
La profondeur est l'ennemi. En tout cas, ça, la profondeur ne vous a pas fait reculer dans votre carrière, puisque lorsque vous avez été nommé à la tête du DRASM en 2006, Michel Lourd, vous êtes lancé dans un projet ambitieux, associé archéologie sous-marine et robotique, pour justement explorer les abysses. Alors que sait-on de l'archéologie dans cet environnement-là, qui est un environnement extrême ?
Alors, au-delà du chaos initial du naufrage, une épave qui se trouve perdue par très grande profondeur, elle ne subit pas les effets de la houle, les effets, la courantologie marine est moins sensible au fond, quoi qu'elle le soit, mais vous n'avez pas ces effets de houle, vous n'avez pas l'effet des tempêtes, donc l'épave n'a pas fait l'objet de récupération immédiatement après le naufrage, comme ça peut arriver sur des épaves perdues au XVIIe ou XVIIIe siècle, où des récupérateurs venaient quand l'épave était par petits fonds, 10, 15, 20 mètres. Quand vous êtes à grande profondeur, ça exclut tous ces gens-là à l'époque. Ces épaves n'ont pas non plus fait l'objet de pillages dans les années 60, 70, 80, après le développement de la plongée sportive, parce qu'elles étaient inaccessibles. Vous avez donc des sites qui sont presque magiquement conservés, où au fond, vous aviez 100 données à la surface, c'est quasiment 100 données, vous les avez encore sur le fond. Donc, ce qui n'est pas le cas sur une épave qui a été broyée dans les roches, qui a été attaquée par la houle, qui a été mangée par les vers marins, les Teredo navalis qui mangent le bois, qui a été ensuite récupérée par des plongeurs sportifs, voilà. Donc, vous avez un potentiel extraordinaire, sauf que, évidemment, la profondeur étant l'ennemi, il faut pouvoir y travailler avec les mêmes exigences méthodologiques que vous avez quand vous travaillez dans 10 mètres d'eau, 20 mètres d'eau avec vos bouteilles sur le dos. Il ne s'agit pas de sacrifier le site sous prétexte qu'il est profond. Il faut avoir les mêmes exigences. Et il faut pouvoir l'étudier. Et là, il n'y a qu'une solution, c'est la machine. C'est-à-dire, il faut trouver une machine qui soit vous. C'est-à-dire, au fond, le bon de commande au Père Noël, c'est un avatar d'archéologue sous-marin que vous dirigez, que vous pilotez, vous voyez à travers ses yeux, vous prenez avec ses mains. mais ce n'est pas vous qui êtes au fond, parce que vous ne pouvez pas, parce que la profondeur est ainsi faite que l'humain n'ira pas au-delà aujourd'hui, on le sait, hein. Moi je fais partie d'une génération où on a cru tous, vous savez, l'histoire, on va vous immerger les poumons, vous allez descendre dans l'eau, vous allez travailler comme si vous étiez à terre, tout ça est un peu passé de mode. Aujourd'hui, on le sait, grosso modo, au-delà de 300 mètres, l'humain n'a pas vraiment sa place, et de toute façon, pas des groupes d'humains avec toutes les compétences scientifiques nécessaires pour faire une fouille sous-marine. Donc il faut suppléer par des machines, et il faut que ces machines soient quasiment aptes à faire le travail d'un humain sur le fond, donc un avatar d'être humain, et c'est vers ça que nous tendons, et c'est là-dessus que j'ai travaillé depuis le lancement du programme d'archéologie des abysses que j'ai initié en 2007.
Cet avatar d'être humain, on s'y rapproche, puisque aujourd'hui, en collaboration avec le Stanford Robotic Lab et le LIRM de Montpellier, on a un robot humanoïde baptisé Ocean One qui ressemble à un plongeur humain. On en est même d'ailleurs, je crois, je ne sais plus quel numéro de modèle, mais c'est Ocean One K, voilà, qui fait référence justement à la capacité de plonger à 1000 mètres de profondeur. On a ce nouveau robot plongeur.
Oui, parce que j'ai connu grâce à... En fait, quand j'ai voulu développer le programme d'archéologie des abysses, j'ai été voir qui, des roboticiens, pour savoir, j'ai été voir les gens qui faisaient de la robotique médicale, par exemple, comment on va pouvoir faire de la médecine ou de la chirurgie à distance. Parce qu'au fond, opérer un être humain à distance, si vous êtes capable de le faire, vous devez pouvoir opérer une épave à distance. Ça, c'est les premiers que j'ai rencontrés, et avec eux, j'ai fini par avancer, on a développé des projets, on a fait des études, je me suis retrouvé avec un grand projet avec l'appui de l'ENSTA notamment, et on a formalisé ce qui serait le rêve de l'archéologue sous-marin, et c'est en cheminant que j'ai rencontré Oussama Khatib, qui est le directeur du Stanford Robotics Lab de l'université Stanford en Californie, qui lui-même était en train de travailler sur un projet d'humanoïde qui s'appelle Ocean One. Donc nous sommes devenus le banc d'essai d'Ocean One. Ocean One a traversé l'Amérique et l'Atlantique pour venir faire ses premières plongées en Méditerranée devant Marseille, puis sur la Lune devant Toulon, et puis ensuite ça a été Ocean One K pour 1 km, c'est-à-dire capable d'atteindre 1000 mètres, et aujourd'hui on est plutôt sur un programme de 6000 mètres. Et puis on développe en même temps des mains, ce qu'on appelle des mains haptiques, c'est-à-dire des mains qui, vous avez le retour d'effort, c'est-à-dire vous avez le sentiment, la sensation du toucher, vous sentez quand vous appuyez, vous sentez si c'est fragile. Au fond, c'est exactement ça. Le vieux rêve, c'est que cette machine ne soit que vous oubliez quand vous la pilotez, que vous n'êtes pas vous-même au fond, parce que comme vous voyez avec ses yeux, que vous touchez avec ses mains, vous avez l'impression d'y être.
La prolongation du plongeur. On continue d'explorer les fonds marins et leurs trésors avec le reportage du jour. Michel Lourd, vous avez sillonné entre autres l'océan Indien pour traquer un grand nombre d'épaves, notamment à bord du Marion Dufresne, un des plus gros navires océanographiques français. Nous sommes partis découvrir les trésors géologiques exhumés par ce navire. C'est au Muséum National d'Histoire Naturelle et c'est avec vous Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha, des trésors oui, rassemblés dans la collection des sédiments et roches océaniques où reposent 890 carottes de sédiments et 20 tonnes de nodules et croûtes polymétalliques. Des échantillons récoltés lors de campagnes réalisées notamment dans l'océan Indien, en zone australe et antarctique. Eva Moreno, paléoclimatologue et responsable de la collection, dévoile en chambre froide des segments de carottes préservés afin d'être analysés pour mieux comprendre les écosystèmes marins et la géologie océanique.
On a différentes formes de nodules. Vous voyez, ça ressemble un peu à une balle de tennis ou à une balle de ping-pong.
Oui, c'est sphérique, voilà, finalement, vraiment très lisse.
C'est sphérique, donc.
Et très sombre.
Alors, ils ne sont pas tous aussi sphériques. Et vous voyez, au milieu, il y a une petite partie blanche, ce qu'on appelle le noyau.
Ah oui, comme la graine, quoi.
Voilà, comme une graine. Et on peut voir comment c'est une couche. Alors, peut-être qu'à l'œil nu, c'est difficile à voir, mais on voit que cette croissance, comme vous avez dit, un peu en forme d'oignon.
Oui, on voit
d'oignon.
Un peu en dégradé, du coup.
Voilà.
Sur le panneau, on voit donc des visuels, et notamment une photo du Marion Dufresne.
Voilà. Et les échantillons qu'il y a dans la collection, la plupart viennent du Marion. Tous ont été... la partie de dragage, ont été récupérés à partir du Marion Dufresne.
On va au sous-sol.
Voilà.
Il faut des conditions de température.
Alors,
précises.
Alors. Donc voilà, si par exemple.
Ah oui, là on est dans une
chambre froide. On a les carottes.
D'accord. Oh, effectivement, il fait combien de degrés là?
Là, on est à 4 de, donc 5 degrés. Vous voyez ici, donc, toutes les carreaux sont rangées.
Alors là, on est face à des grandes armoires avec des myriades de petites caisses.
Voilà, donc chaque caisse contient une demi-section de carottes. Alors une section fait, donc les nouvelles, ça fait environ 12 cm.
Et en longueur?
Et en longueur, ça fait 1,50 m. Donc de chaque section, une carotte en elle-même, elle peut faire jusqu'à 70 mètres. D'accord? On a aussi, si vous voyez ici, des toutes petites carottes à l'ancienne.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Donc, c'est
donc ça, c'est la forme qu'a la carotte quand elle arrive sur les bateaux.
Ok, donc ici on les stocke, on les catégorise, on les range.
Voilà.
Et comment on les analyse en fait?
Alors ensuite, pour les analyser, on va prélever, donc on va. En fait, on a une salle d'échantillonnage que je peux vous montrer. Et là on va aller vers l'endroit où on a une photo.
Qui est juste à côté, finalement.
Juste à côté, donc tout est à l'intérieur.
Ah ouais. Bon, ça ressemble à une paillasse en fait.
En fait, voilà, c'est une paillasse. Et qu'elle soit assez grande et assez costaud pour pouvoir supporter du poids. Donc, du coup, oui, ça ressemble à une paillasse de laboratoire. Et on peut donc travailler sur une carotte qui fait 1,50 m facilement.
Pour analyser une carotte en particulier, qu'est-ce qu'on va faire comme analyse?
Comme analyse?
On va puiser, passer au tamis, les mettre en solution?
Alors, en fait, nous, on dit, en fait, on parle de climatologie, on dit qu'on fait des analyses multiproxy ou multiparamètres. Donc, ça veut dire qu'on va faire plusieurs types d'analyses différents. Par exemple, pour une carotte, il y a des analyses qu'on appelle non destructives, comme par exemple la fluorescence à rayon X, qui mesure donc la composition chimique du sédiment. Autre façon de faire, c'est effectivement échantillonner. À partir de cet échantillon, on peut, par exemple, mesurer la composition minéralogique du sédiment, mais mesure aussi la taille des grains du sédiment, qui nous ont aussi décidé des variations climatiques. Et on peut ensuite, donc ça c'est la partie qu'on appelle détritique, en fait minérale, et il y a la partie biologique, parce que dans les sédiments, il y a beaucoup des fossiles. Voilà. Donc pour les nodules, donc on peut aller voir les nodules qui sont à côté. Je me trompe quelquefois.
Ah oui, c'est immense hein, quand même.
Donc, tout ça ici, on a donc des boîtes de nodules, mais vous voyez qu'il
y a des gravats en fait.
Voilà, c'est des formes très diverses. Et là, ils sont plus irréguliers, ils sont des formes. C'est un très petit.
Et c'est un petit. Tu peux toucher ?
Oui.
Et donc, après, ils sont lourds quand même. Enfin,
c'est assez lourd. Il faut, après,
ça vient du fond des.
Il faut bien se laver les mains, d'accord ?
Ah oui,
c'est. Donc vous voyez ici d'autres types de formes plus rondes, plus grandes. Donc pour savoir exactement par exemple d'où ça vient, on a un QR code.
Ah oui.
Est-ce que ça va fonctionner ? Voilà. Donc là, par exemple, cette carotte.
Ah, donc on arrive sur une fiche technique.
Voilà, on a la campagne qui s'appelle Safari, et le nom de l'échantillon 79. La position, donc bassin de Madagascar,
océan Indien,
et océan Indien, la profondeur d'eau 4365 mètres, et comment il a été prélevé, type d'appareillage, un chalut à perche, et après on peut faire par exemple, ici vous voyez la composition de l'échantillon.
Ah oui, on a accès à une table de
verre. Et voilà, et on a alors.
Et des photos.
Donc on a nickel, vous voyez, cuivre, cobalt, fer, manganèse. Donc vous voyez les composants principaux, c'est fer, manganèse. Mais on peut aussi avoir un peu de nickel, cuivre et cobalt. Et surtout ces éléments qui sont maintenant
très
prisés. Voilà. Alors, ouais. Voici on a par exemple ici juste.
Alors,
donc voilà, ça c'est encore. Voilà, vous voyez, c'est des formes encore différentes. Vous voyez, ici, c'était des échantillons qu'on avait. Vous voyez, ils sont plus petits. C'est des formes là aussi. Ça, on dirait que c'est une pierre ponce. Vu
la. Ah oui, la granularité de la
surface.
Oui,
et qui est très très léger. Et on a des plus gros, par exemple, ici.
Ah oui, là, c'est massif.
Là, on a sûrement aussi des matériels volcaniques. Voilà. Alors là, c'est un peu le côté obscur.
Ah ouais. C'est une autre chambre froide.
Une autre chambre froide, mais vous voyez, elle est totalement.
Alors on ne peut pas circuler du tout.
Non, non. Parce qu'on a trop d'échantillons. C'est le problème, c'est qu'on a trop de. Pas assez d'espace. Donc on a un projet de les agrandir, mais c'est très compliqué. C'est compliqué parce que les échantillons sont très lourds, donc les déplacer sont très. ça ne se déplace pas facilement. Il faut beaucoup d'espace et il faut du coup trouver un espace encore plus grand. Donc c'est pour l'instant, c'est un projet qu'on a, qu'on aimerait mettre en route dès qu'on peut. Mais au niveau financier, pour l'instant, il faut trouver les financements.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur l'appli Radio France. Michel Lourd, on arrive vers la fin de cette discussion, mais il faut quand même parler aussi de cet engagement que vous avez. Vous avez beaucoup travaillé avec Interpol, avec l'Observatoire international des trafics illicites de biens culturels, où vous êtes spécialisé presque par nécessité dans la traque des pilleurs. Quels sont les risques majeurs qui pèsent sur les épaves ?
Alors, les risques sont nombreux. Les premiers, je dirais, c'est la dégradation. Les dégradations, je ne parle pas des dégradations liées à l'environnement marin, etc., qui sont incontournables et qui sont presque légitimes, je dirais, l'univers est ainsi fait. Ce sont les dégradations notamment engendrées aujourd'hui par la grande pêche et les chalutiers de grande pêche qui vont très très profond. Au début de ma carrière, lorsqu'un chalutier me rapportait des vestiges sous-marins en me disant « Tiens, on a trouvé ça dans les filets », il me disait « Ouais, j'ai trouvé ça entre 120 et 180 mètres de fond ». Et puis j'ai vu arriver des morceaux, je me souviens, une aile d'avion avec une croix gammée et un numéro sur l'avion qu'on a identifié, et le type m'a dit « J'ai trouvé ça entre 1500 et 1800 mètres de fond ». Donc là, je me suis dit « Ouais, mais il y a le feu au lac ». Parce qu'au fond, toutes ces épaves profondes, on avait cru qu'elles étaient là comme des réserves de musées de manière très pérenne. Donc ça, c'est la première dégradation. La deuxième, c'est malheureusement, convoitise et malveillance sont les deux soudards qui hantent la planète. Donc il n'y a pas de raison que l'archéologie sous-marine soit à l'abri de ces déprédations, c'est-à-dire le pillage. Destruction rapide, volonté de se saisir des objets, de les commercialiser. Au fond, les objets, quand ils sont sur une épave, ce sont des témoins extraordinaires d'une page de l'histoire de l'humanité. Si vous les en extrayez et que vous les vendez, c'est des objets qui deviennent presque autistes. Hein. Ils perdent la voix, ils perdent le témoignage, ils perdent la parole. Ils ne peuvent plus rien raconter que ce qu'ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire plus rien de l'environnement qui les a vus vivre. Et ça, malheureusement, c'est sur toute la planète. Alors en France, ça existe, on peut imaginer, a fortiori dans tous les pays du monde qui n'ont pas de structure d'archéologie sous-marine, pas de système de garde-côtes qui soit entraîné à protéger ce patrimoine. Donc, voilà, oui, je me suis, comme vous l'avez dit, par nécessité, je me suis spécialisé. Et quand on entre dans les réseaux, évidemment, on devient un peu incontournable, on a des sources d'informations multiples, et c'est ce qui permet de lutter, mais il faut se spécialiser, on peut pas faire ça en dilettante.
Donc les chalutiers n'abîment pas seulement les écosystèmes marins, mais aussi ce patrimoine archéologique. Par rapport au pillage, à quel point le pillage d'épaves est-il fréquent ?
Alors, on disait au début de ma carrière, donc on disait que les épaves par petits fonds, je dirais jusqu'à 40-50 mètres de fond, avaient probablement été pillées à 60% de leur contenu pour 80% d'entre elles. On a longtemps mésestimé les risques sur les épaves de grande profondeur qui ont fait aussi l'objet de délinquance en col blanc, parce que là, il faut des investisseurs, il faut de l'argent, il faut des moyens. Et puis, le chalutage de grande pêche, là, aujourd'hui, Le nombre d'épaves, c'est saisissant hein, quand on est au cœur de l'action, comme je l'ai été pendant plus de 40 ans. C'est saisissant de voir le nombre d'épaves où vous plongez, où vous trouvez des chaluts qui sont ragués, qui continuent à pêcher au fond, rendant les épaves totalement inaccessibles. Alors vous avez soit une épave romaine très fragile, le panneau de chalut la traverse en 30 secondes, en 3 ou 4 secondes, en détruisant tout sur son passage, en explosant la cargaison, en la répandant sur des centaines de mètres carrés, en brisant tout ce qui était encore entier avant son passage. Et puis lorsque c'est une épave contemporaine qui résiste encore parce que la corrosion et les bactéries ne l'ont pas complètement mise au sol, alors elle arrête le chalut et vous, quand vous vous en approchez, vous ne pouvez plus l'étudier parce que vous êtes allé ensacher dans un chalut qui remonte parfois 30-40 mètres au-dessus de l'épave. Et vous vous rendez compte que c'est un terrible danger pour vos machines. Voilà, c'est un double malheur. Donc l'idée, c'est, moi je ne condamne pas la pêche, je ne suis pas pêcheur, mais j'en connais beaucoup des amis pêcheurs, j'ai travaillé avec eux. Donc je ne condamne pas la pêche, je dis simplement il faut qu'on trouve à s'organiser, trouver des lieux de rendez-vous, il faut dialoguer, il faut organiser, il faut sectoriser des zones où on a reconnu l'innocuité du risque de la pêche, et puis il faut s'entendre avec eux lorsqu'on veut protéger certains sites, c'est absolument indispensable. Ne jamais perdre de vue que le patrimoine sous-marin, c'est un peu des racines de l'humanité, et donc l'humanité c'est pas seulement moi, c'est aussi des pêcheurs.
Eh bien merci pour ces mots de conclusion. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Adelbaum, mais mille merci Michel Lourd de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Merci.
Merci.
Tout de suite, un tout autre sujet. L'alcool est un facteur de risque du cancer du pancréas. C'est la chronique avec science.
Existe-t-il un lien entre consommation d'alcool et cancer du pancréas? C'est un cancer relativement rare. Il représente moins de 2% des cas en France, soit 16 000 nouveaux cas en 2023, mais il est en nette progression. Une petite partie de ces cancers du pancréas sont le fait de prédispositions génétiques. Pour le reste, il s'agit de facteurs de risque dits évitables, avec en premier lieu le tabac. S'ajoute à cela, dans des proportions de plus en plus faibles, l'obésité, le diabète de type 1 et 2, puis la pancréatite. Au total, on estime qu'un tiers des cancers du pancréas diagnostiqués dans le monde sont liés à notre mode de vie. Connaître ces facteurs de risque est essentiel pour les politiques de santé publique et pour soi. Et jusqu'à présent, seule une consommation excessive d'alcool était pointée du doigt. Sabine Naudin est épidémiologiste et chercheuse postdoctorante dans l'équipe Exposome et Hérédité de l'INSERM.
Les preuves qui jusqu'à présent avaient été identifiées dataient de 2012 et donc avaient défini que l'alcool était potentiellement un facteur de risque pour le cancer du pancréas, mais qu'à des consommations très élevées, ce qu'on appelle le heavy drinking, les consommations extrêmes d'alcool. Dans la littérature, elle n'était pas définie avec une dose homogène entre les études. Ce consortium avait trouvé une association chez les femmes, mais la plupart des autres études de cohorte trouvaient une association chez les hommes uniquement. Et donc les zones de flou qu'il y avait à l'époque, c'était justement de savoir s'il y avait une vraie différence entre les hommes et les femmes, et de pouvoir étudier l'association chez les non-fumeurs. Puisque comme le cancer du pancréas a pour facteur de risque le tabagisme, il était extrêmement important de pouvoir étudier l'association chez les non-fumeurs parce qu'il y avait un potentiel risque d'avoir un biais de confusion entre le tabagisme et la consommation d'alcool.
Et c'est toute la difficulté de ces études prospectives. Donc les études où l'on suit pendant des décennies le mode de vie des personnes et on regarde qui développe ou non un cancer. Il est difficile de faire la différence entre tous les facteurs de risque, d'autant que les buveurs sont aussi parfois fumeurs. L'autre problématique particulière du cancer du pancréas, c'est parce qu'il est relativement rare, il faut beaucoup, beaucoup d'individus pour avoir une force statistique suffisante. Et face à cela, il y a trois solutions. Créer une super cohorte avec énormément de personnes, mais ça coûte très cher. Deuxième option, faire une méta-analyse, donc prendre tous les résultats d'études pour voir un effet, ou bien récupérer non pas les résultats de ces études, mais leurs données. Cette dernière solution permet d'inclure les cohortes trop petites qui n'avaient pas la puissance statistique suffisante pour publier leurs résultats. Et c'est ce qu'a fait cette nouvelle étude parue dans PLOS Medicine, pilotée par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, et dont cette chercheuse est la première autrice. Au total, 2 millions de personnes ont été incluses dans cette analyse et c'est rare qu'une étude englobe autant de personnes sur autant de continents différents. Il y a des cohortes d'Asie, d'Australie, d'Europe et d'Amérique du Nord. Résultat, il y a bien une association modérée mais significative entre consommation d'alcool et cancer du pancréas.
On est sur 3% d'augmentation du risque de cancer du pancréas pour 10 grammes d'éthanol consommé par jour. Donc, comparé à d'autres facteurs de risque du mode de vie, c'est assez faible, mais ici, c'est significatif et c'est surtout indépendant des consommations de tabac. Et ça, c'était la partie qui était unique dans nos résultats pour des doses de consommation d'alcool qui sont tout à fait modérées et modestes. Il faut se mettre en tête que 10 grammes d'éthanol par jour, c'est environ un verre standard d'alcool qui peut être donc de la bière, des liqueurs ou spiritueux ou du vin. Alors, la distinction entre les sexes, nous, on s'attendait donc dans nos résultats à avoir une différence homme et femme. Et donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que l'association, bien qu'elle puisse être plus visible chez les hommes parce que c'est eux qui consomment les plus fortes consommations d'alcool, on a quand même pu observer cette association chez les femmes. Et surtout, on n'a pas distingué de différence statistique significative.
Le risque existe dès que la consommation dépasse les recommandations. 12% de risque supplémentaire pour les femmes qui boivent plus d'un verre par jour et 15 à 36% pour les hommes qui en consomment plus de deux. Les seuils recommandés sont les mêmes depuis 2017. C'est toujours 2 verres maximum par jour et pas tous les jours. Mais on le sait, dans la vie réelle, la consommation d'alcool n'est pas nécessairement uniforme. La poursuite de cette étude serait d'intégrer des données de consommation d'alcool à plusieurs étapes de la vie et d'élargir la population d'études à d'autres continents. L'autre enjeu est évidemment la recherche de traitements pour cette maladie souvent diagnostiquée très tardivement. Des thérapies ciblées commencent tout juste à voir le jour, mais pour l'instant, elles sont encore au stade d'essai clinique.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Céline Lozel, Lou Anger, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales à la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Olivier Arnay. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.
Question du soir, première partie, étude de genre. Pourquoi tant de polémiques ?
Quentin l'a fait.
Et puis dans l'actualité, vue par les idées et la recherche, comment étudier les élites économiques ? Comment comprendre qui elles sont ? Comment elles vivent du point de vue scientifique ?
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vendredi 13 juin à 20h, France Culture et la Comédie Française présentent Athalie, dernier opus de l'intégrale des tragédies de Racine. Lecture par la troupe de la Comédie Française en public au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Direction artistique, Clément Hervieux-Léger de la Comédie Française. Musique de Jean-Baptiste Moreau, dirigée par Lucille de Trémiol, interprétée par des musiciens et des chanteuses. Réalisation Louise Loubrieux. Plus d'infos et réservations, Maison de la Radio et de la Musique.fr et franceculture.fr.
La Science CQFD revient lundi. Ces trois dernières décennies, nous avons découvert toutes sortes de planètes étranges, et notamment les super-terres, sans équivalent dans notre système solaire. Plus massives que la Terre, plus légères que les géants,